Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir tout le monde, bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition série qui va être consacrée au quatrième épisode de la série Andor. Je suis Jeff et ce soir je suis accompagné de Juliane. Bonsoir Juliane, ça va?
Oui, bonsoir, bonsoir à tous, ça va bien et toi?
Oui, ça va, merci. Et du côté l'ouest du continent, on a droit à Jean. Salut Jean, ça va?
Salut Jeff, salut Juliane et bonsoir le chat, salut à tous.
Alors, comme on peut voir, Jean, il fait encore clair chez lui. Nous, il fait noir à cette heure au Québec. Et lui, il est encore en après-midi. C'est ça. Donc, comme je disais, ce soir, nous allons parler du quatrième épisode de la série Andor. Épisode, je crois, qui a été apprécié par plusieurs. On se fie dans les commentaires que nous avons entendus. Juste rappeler que c'est un épisode spoilers, donc il n'y a pas de section non-spoilers et de section spoilers. On y va là, vraiment avec nos commentaires. On va y aller d'abord avec un petit récapitulatif de l'épisode. J'ai dit petit, mais vous allez voir, il est quand même assez long. Ensuite, on va chacun donner notre avis sur l'épisode pour ensuite terminer avec des petites choses que nous avons remarquées et à quoi on peut s'attendre pour les prochains épisodes. D'accord?
All right.
OK. Alors, je vais commencer avec le descriptif de l'épisode. L'épisode numéro 4, dont j'ai complètement oublié le nom. J'étais sûr que je l'avais écrit.
Aldani, c'est le nom de la planète. Oui. Merci.
Aldani. Alors, ça commence pas bien. OK. Donc, l'épisode s'appelle Aldani. Il dure environ 47 minutes. C'est encore un épisode qui est écrit par Tony Gilroy. L'épisode commence avec Luthen, hein, qu'on a rencontré dans le dernier épisode, qui réussit à convaincre Cassian de rejoindre la cause rebelle, estimant qu'il a déjà mérité une condamnation à mort en volant l'Empire. Cassian estime que combattre l'Empire est une perte de temps. Hein, on voit quand il parle. Il dit que mieux faut vivre la vie que vous pouvez vous tailler sous ce régime. Luthen révèle que finalement, il était venu à Ferrix pour recruter Cassian afin qu'il se joigne à un cambriolage sur la masse salariale trimestrielle pour l'ensemble du secteur impérial. Vraisemblablement, c'est sûrement un moyen de financer l'Alliance rebelle. Hein. Je pense que c'est une façon pour eux de ramasser de l'argent pour la rébellion. Donc, une partie de cet épisode aussi nous amène au siège de l'Empire Palpatine et présente les méchants du Bureau de la Sécurité Impériale, ou ISB. C'est une agence, on l'a vu dans les autres séries, on l'a vu aussi dans les romans, ceux qui lisent les romans. C'est une agence qui applique la loi, qui est en charge aussi du renseignement. Eux autres sont vraiment là, ils s'occupent de maintenir fermement les citoyens sous le contrôle du régime impérial. C'est là qu'on rencontre la superviseure d'Hydra Miro, qui est jouée par Denise Gow. Pendant qu'elle entend parler du gâchis que la force de sécurité de l'entreprise a fait sur Ferrix, alors qu'elle tentait d'attraper Cassian, Deidre devient intriguée, même si cela ne révèle pas de sa compétence, suggérant que cela fait allusion à un effort rebelle organisé, hein, à cause qu'ils ont volé je ne sais pas c'est quoi l'engin là, qui permet de savoir où les forces impériales sont dans les secteurs impériaux. Son patron, qui est le Major Partagaz, il ne pense pas qu'il y ait suffisamment de preuves et se concentre trop sur le maintien de la bureaucratie pour regarder de plus près. Il lui a dit à peu près de finalement là, reste à ta place, fais tes choses, puis ferme-la. C'est pas mal ce qu'il a dit. avant, Lutin dépose Kaysian sur une planète qui est la planète Aldani. Donc, c'est un monde qui est peu peuplé. L'Empire s'en est emparé, l'a utilisé comme point de distribution dans sa conquête galactique, qui a complètement changé le mode de vie des indigènes sur cette planète. Nous sommes également présentés à l'équipe rebelle qui sont tous suspects de Kaysian, hein, qui est l'équipe qui est dirigée par un personnage qui s'appelle Vel Sarta. Et il y a aussi un lieutenant impérial qui s'appelle Sul Rimi. Ouais, c'est ça. Non, le lieutenant Gorn, qui est joué par Sul Rimi, qui est comme leur gars qui est à l'intérieur, qui va les aider à faire le cambriolage. Ils sont pour la plupart très mécontents que Kaysian a rejoint le groupe quelques jours à peine avant que leur braquage se mette en branle. La cible, c'est une garnison impériale massive et fortifiée. Ils doivent pénétrer dans un coffre-fort afin de mettre la main sur la masse salariale avant de s'échapper dans un cargo. Ils vont utiliser un événement céleste comme couverture, mais tout ça est vraiment... s'entend, là, c'est très risqué et très dangereux. Ensuite, on rencontre un personnage très connu, hein, Mon Mothma. Comment il s'appelle déjà? Luthen. Luthen arrive à Coruscant, on le voit, hein, il enfile une perruque, il change complètement sa tenue, son comportement, hein, on le voit. Il est le propriétaire d'un magasin d'antiquités chic qui est destiné aux élites de la capitale. Donc, il rencontre Mon Mothma. Il se rend compte tout de suite qu'ils ne peuvent pas faire confiance au chauffeur de Mon, hein, qui est un nouveau chauffeur. Il organise un grand spectacle flamboyant, hein, alors qu'il, pour offrir, sous prétexte d'offrir un cadeau au mari de Mon Mothma, il l'amène comme à l'arrière de la boutique et il laisse tomber sa façade et devient lui-même, le rebelle. Ce que Mon Mothma lui dit, c'est qu'elle a du mal à accéder au fond pour la rébellion et elle veut amener quelqu'un de nouveau dans leur cercle intime, étroitement contrôlé. Luthen n'est pas d'accord. Il trouve que c'est très risqué. On se doute peut-être que c'est probablement Bail Organa, la personne à qui a fait référence. Mm-hmm. Ensuite, on voit Mon Mothma qui retourne dans son appartement et on rencontre son mari pour la première fois, qui s'appelle Perrine Ferta. Et Perrine a décidé d'organiser un dîner chic pour son ancien copain de l'armée. Et Mon Mothma a remarqué deux noms, deux impériaux de haut niveau parmi les invités. Le premier, Ars Dangor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
Non, je vais te demander.
OK, c'est un des gars qu'on voit dans le Retour du Jedi, dans la salle de trône, qui est un des... avec les chapeaux, là, les costumes, là, qui est comme les proches de Palpatine. D'accord. Ça, c'est un. Le deuxième, c'est Slymore. Slymore, on a pu voir dans la prélogie. C'est la femme qui est aux côtés de Palpatine dans le Sénat, qui n'a pas de cheveux, qui est très blanche. On dirait qu'elle a comme des ailes, son manteau ou quoi. On dirait que c'est comme des ailes. Ça, c'est la deuxième personne. Tout ça, bien sûr, nous amène à une intrigue qu'on a très hâte de voir dans les prochains épisodes. Mais l'épisode se termine alors qu'il se prépare. On voit Kaysian qui étudie les plans pour le braquage. Pour être sûr qu'il est prêt lorsque le moment est venu. Voilà. Alors, c'est en gros le récapitulatif de l'épisode. Si je vous demande votre avis, si Juliane, je commence avec toi, comment tu as trouvé l'épisode?
Oui. À date, c'est le meilleur des quatre. Là. Personnellement, je trouvais que c'était un peu plus rapide comme rythme. C'est de voir aussi qu'on commence à voir le côté politique de la chose. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais j'adore le personnage de Luthen. Il m'intrigue. Quand je les ai vus dans sa boutique, ça me faisait penser genre Fantomas puis son assistante Money Penny, tu sais, genre il se déguise, on voit là comment il essaye de prendre les mimiques, comment il se costume. Donc ça, c'est, ça a l'air vraiment intéressant. Puis je me demande, tu sais, s'il y a pas d'autres rôles aussi, s'il va, il y a juste ce déguisement là où il peut se déguiser en officier ou en toute autre chose. Donc j'ai hâte de voir, il avait l'air d'avoir une pas pire garde-robe garnie.
Ouais, c'est ça que j'allais dire. On le voit dans son vaisseau là, quand il est.
Le miroir.
Il peut choisir.
Ouais. Même son vaisseau, il est intéressant aussi. La voix dans son vaisseau, ça me faisait penser à celle de K2SO. Je sais pas, je trouvais qu'il avait la même voix, la même intonation, comme il parlait à Andor. Mon Dieu, il y a des similitudes. Même un peu comme son droïde sur Férix. Je trouvais que c'était les mêmes interactions. Fait qu'on voit que. Il y a quand même des liens avec les droïdes, beaucoup. Mon Mothma, on voit qu'elle n'a pas l'air très heureuse en couple avec son conjoint. C'est de voir l'opulence. Lui, là, on dirait qu'il... OK, ma femme me fait vivre. Moi, je vais avoir du fun. Je vais faire des gros parties. C'est de voir le côté aussi de... Oui, il y a la rebelle qui, oui, elle veut faire des choses pour aider les gens. Elle dit, moi, je fais des gros parties. Tu fais des gros parties, puis ben, ceux que tu invites sont en train de priver de nourriture plein de gens. Donc, c'est de voir les deux côtés de la chose, ben, un peu comme dans la politique comme on vit présentement. Tu sais, le côté où on veut aider les gens, mais l'autre, on profite du système.
Moi, je l'ai vu plus comme elle a fait super attention. Oui. Elle veut pas que personne se doute de elle. Lui, son mari, c'est comme, il s'en fout, là. Moi, je fais...
Mais sais-tu?
Qui je veux, puis je fais... Oui, il sait, parce que la façon qu'il parle, qu'il se parle, il sait qu'est-ce qu'il a fait, tu sais.
Ouais.
Mais, tu sais, lui, c'est comme, ben non, inquiète-toi pas, il n'y en aura pas de problème. Mais, tu sais, t'as-tu vu qui invite aussi?
Ben, c'est ça. Puis de voir aussi les espions, mon Dieu, est parano. T'as dit, je trosse pas mon chauffeur, les serveurs. Il y a des espions, c'est là. On voit qu'il est vraiment isolé, là. Puis de voir Luton, ben, justement, lui, je veux de l'argent. Puis même Kessin, c'est garde, il dit à Vel, si il fait pas ton affaire, tu l'es, c'est pas grave. C'est de voir tout ce côté-là. Fait en tout cas, en date, dans les quatre, c'est mon préféré. C'est mon épisode préféré.
Mm-hmm. All right. Et toi, Jean, de ton côté?
Ben, c'est la première fois que je m'exprime sur cette série-là. Et j'avoue que vous, c'était un épisode que vous aviez déjà vu, en plus, mm-hmm. en avant-première, c'est ça? Quatrième?
Ouais, moi, je l'avais vu.
Ouais, vous l'aviez vu déjà. Donc, c'était une redécouverte pour vous. Et là, j'avoue que ça va dans la continuité des trois premières. En fait, je pourrais pas dire si c'est mon préféré ou pas. C'est vraiment l'ambiance et le ton général de la série pour l'instant me plaît bien. Mais comme beaucoup, ça fait l'unanimité, quoi. Avec un ton beaucoup plus, mais vraiment très différent des trois autres séries. En fait, c'est vraiment t'as quatre séries et t'as quatre tons vraiment spécifiques, je trouve. Et là, ça fait du bien d'avoir ce ton-là un peu plus sérieux, un peu plus réaliste et tout. Donc ouais, pour ça, j'ai beaucoup...
Un peu plus mature, hein, c'est un peu plus adulte,
beaucoup,
je trouve.
Oui, mature, ouais. Ben, la team FR avait déjà parlé de la scène de sexe vite fait la semaine dernière, donc c'était surprenant de voir ça dans Star Wars, et ça, c'était le bienvenu, hein. On voit que ça se débloque aussi un peu en littérature, aussi on a plus ça, le dernier bouquin aussi présente ce genre de scène, donc ça fait plaisir, quoi, d'avoir quelque chose d'un peu plus adulte, on va dire, entre guillemets. Et ouais, le ton était vraiment, c'est vraiment très calme, très posé. Si tu recherches une série d'action, c'est pas vraiment ça pour l'instant. Ça prend son temps, et moi je trouve ça bien, quoi, une série qui prenne son temps comme ça. J'aime beaucoup la. Alors j'ai parlé un peu technique plus que dans le fond, en fait, parce que dans le fond, heureusement, tu vois tous les noms que t'as énuméré pendant ton résumé, hein, tu vois, j'ai du mal à m'en rappeler pour l'instant, parce que c'est tous des nouveaux personnages quasiment, donc, tu vois, moi, j'appelle Stellan Skarsgård, Stellan, quoi, parce que son prénom, Lothal, qui s'appelle, je sais même pas comment il s'appelle.
Ouais, c'est Lothal, ouais.
Lothal, voilà, Lothal. Voilà, donc bref, ouais, j'ai encore un peu de mal à me rappeler des noms, quoi. Ah, mais au niveau casting, je trouve le casting vraiment top. Alors, évidemment, Stellan, moi, c'est un acteur que j'adore, mais du plus au point, quoi. Enfin, tout ce qu'il fait, j'ai l'impression que depuis, je crois que c'était Millennium et Pierre des Caraïbes, quoi, sa trilogie Millennium était excellent. Pierre des Caraïbes, c'était un petit rôle, mais il était quand même très très bon. Et là, dernièrement, comme l'a dit Fabien la semaine dernière, dans Dune, il est aussi tout bonnement excellent. J'ai l'impression que tout ce qu'il fait, c'est
dans
ouf.
Ronin. Il était dans Ronin aussi.
Dans Ronin.
Avec Robert De Niro, là.
Oh, mon Dieu, ouais.
Ah, je l'ai pas vu celui-là, tu vois. Faudrait que je le regarde. Ah, mais il a une filmo de fou, Skarsgård, toi, c'est le papa Skarsgård. Et dans celui-là, bah, justement, alors déjà dans les trois premiers, j'ai trouvé excellent, En plus, t'as vu qu'il le dévoile pas directement. C'est d'abord de dos, puis via ses jumelles, puis bam, il, gros plan sur sa face avec un zoom sur son visage. C'était génial. Il a un charisme de fou. Et là, dans cet épisode, tu vois un petit peu la différence de jeu qu'il a entre le début de l'épisode, il est en mode rebelle, et puis bam, quand il est en mode vendeur d'art, comme tu disais, dans sa boutique, là. La manière dont il switch, avec Mon Mothma aussi, là, j'ai trouvé ce passage excellent, vraiment. C'était la meilleure scène de l'épisode, c'était ça, quoi. D'ailleurs, au début, je comprenais pas, dans ce vaisseau, il commence à se maquiller, à se mettre la perruque et tout. Je sais, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Il commence à bien s'habiller, et puis il commence à prendre cette tête un petit peu joviale et tout, alors que c'est l'opposé de ce qu'il était pendant les trois premiers épisodes. Et bam, il prend ce rôle-là, hein, c'est vraiment un rôle qu'il joue là, pour sa couverture. Là. Et quand il passe en backstage avec Mon Mothma, bam, il repasse en mode rebelle, en mode serious business. Et j'ai adoré, quoi, le switch de truc. Tu vois dans la lueur dans ses yeux, la lueur de ses yeux, tu vois que c'est un acteur de fou. Quoi, j'adore cet acteur, vraiment. Et donc, il y a lui, il y a, comment il s'appelle, Andor, j'ai plus son nom.
Diego Luna.
Diego, voilà, Diego. Diego, moi, je ne connais pas plus que ça, à part dans le clip de Katy Perry et dans Andor. C'est tout ce que j'ai vu de lui, quoi. Mais j'ai pas vu la série. C'est la série
Narcos,
voilà, que je connais pas du tout. Donc je peux pas trop juger. Alors il est toujours super cool. Vraiment, j'adore son petit accent hispanique. Moi, ça me fait craquer. J'adore vraiment. Et il joue toujours très bien. C'est il reprend vraiment le rôle qu'il avait en Rogue One. Mais tous les autres rôles secondaires, là, on a eu plein de rôles secondaires qui sont excellents. Là, tous les rôles de l'ISB, pardon. C'était vraiment, vraiment très très bien. Là, j'ai l'impression qu'ils arrivent à trouver des gueules. C'est un peu comme les droïdes. Ils arrivent toujours à créer un nouveau droïde super attachant, super intéressant au niveau design et personnalité. Mais en bad guy, ils arrivent toujours à te prendre des gueules. Alors, c'est des acteurs que tu connais pas, mais ils ont des têtes. T'es là, mais pouah, genre le Tarkin-like, là, l'espèce de supérieur de l'ISB. Là, c'était,
l'ISB,
ouais, ils ont super bien choisi, ils jouent super bien dans son rôle. Pareil, la femme, pareil. Alors, encore une fois, j'ai pas les noms. J'ai regardé l'épisode il y a moins d'une heure, là, donc c'était encore tout fait. J'ai trouvé ça excellent. Elle joue vraiment très très bien, quoi. C'est vraiment, t'y crois, quoi. T'y crois, t'es vraiment parmi eux, quoi. Donc, ouais, non, vraiment une bonne surprise que cette série. Alors, j'ai pas le côté grosse claque. Encore une fois, moi, je suis pas très sériephile, je suis plus cinéphile à la base. Du coup, les séries, j'ai quand même ce sentiment, ça reste une série télé. Donc c'est très bien, on passe un bon moment, mais j'ai pas la claque que t'as quand tu vas voir Star Wars 7e, tu vois. C'est pas la même excitation, c'est pas la même hype, c'est pas la même claque. Donc c'est très bien de retourner dans l'univers, mais voilà, je suis pas hypé plus que ça, quoi. Je vais quand même continuer de suivre la série, mais voilà, quoi. Donc voilà, donc, pour l'instant, très bon, et puis hâte de voir la suite, ouais. C'est très intriguant, là, le début de la série. Et toi, JF, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi aussi, comme Julien, j'ai trouvé que c'est le meilleur épisode jusqu'à présent des quatre. J'ai adoré les trois premiers aussi. Vous l'avez dit, je vais pas répéter, c'est différent, ça prend son temps. Moi, c'est ça, je trouve, qui vraiment, c'est ça qui l'aide, c'est ça qui est pour la série. C'est que ça prend son temps. On a le temps de connaître les personnages, de découvrir qui ils sont. Puis ils sont c'est tous des personnages intrigants, autant du côté de l'Empire que du côté rebelle et tout. C'est tous des personnages qu'on veut en savoir plus. Contrairement à d'autres séries où des fois on voyait des personnages, on était comme c'est bon, on l'a vu, là on passe à autre chose. Non, là c'est comme tu sais, comme tu disais, celui qui est en charge de l'ISB, tu veux en savoir plus. Il veut tout contrôler, mais il est débordé. Pas il est débordé, mais lui, tu sais, c'est comme... tout passe par la bureaucratie, tout. Peu importe ce qui arrive, tu sais, c'est comme... t'as la gouverneure... Pas la gouverneure, mais la superviseure que je disais, Deidre. Elle, tu sais, tu le vois, elle, c'est... Elle a soif de pouvoir, hein, elle veut tout prendre les opportunités qui se présentent à elle pour...
Elle veut monter.
Pour monter, exactement. Puis ils sont tous comme ça, hein, on le voit, parce qu'elle est comme en conflit avec un autre superviseur, que lui, il veut pas partager ses informations, puis tout ça, qui pourrait l'aider, elle, dans son dossier. Fait que, tu sais, c'est comme, non, c'est chacun pour soi, puis, tu sais, fais tes choses, puis mêle-toi de tes affaires, là. Donc, ça, c'est super cool. Le personnage de Luton, c'est vraiment un des personnages les plus cool de la série. Vraiment, c'est un très bon acteur. Mais juste de le voir, comme tu disais, comment il switch de personnage comme ça, de rôle. qui se pratique dans son vaisseau. Ouais. Avez-vous remarqué aussi que son vaisseau, il y a comme, on dirait, des pièces du Faucon millénaire.
Oui.
Hein, on voit que...
Le cockpit aussi, là.
Le cockpit, puis comme la partie où il y a la rampe qui descend, c'est vraiment pareil. Donc, je trouvais ça cool, la similarité un peu entre les vaisseaux. Mais non, j'ai adoré. J'ai hâte de voir. Écoute, la façon que ça finit, on a hâte de voir ce qui va arriver. Non seulement avec Cassian et ce qu'ils vont faire, le coup qu'ils vont faire, mais surtout avec l'Empire, avec le dîner qu'il va avoir avec Mon Mothma. J'ai hâte de voir ça. Comment, je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense que c'est Syl, l'officier impérial qui s'est fait
Renvoyer
chez lui.
Karn, ça se peut-tu Karn?
Je sais pas. Je me souviens pas de son nom, mais en tout cas, celui qui s'est fait renvoyer chez eux à Coruscant, qui retourne chez sa mère. Là. Lui.
Il est excellent. Franchement, l'acteur est
génial. Non, je sais. Mais je suis sûr que son histoire à lui n'est pas finie non plus. Je sais pas, on va le revoir. Là. Ouais, c'est clair. J'ai adoré. C'est un très bon épisode. Si je vous demanderais d'y donner une note sur 10, vous donneriez combien?
Moi, je dirais 8.
8?
Ouais, pareil, ouais, un petit 8, ouais.
Toi, moi, je pense que j'ai aimé un peu plus. Moi, je lui donne un 9 sur 10.
Oh!
honnêtement, habituellement, tu sais, je vais tout le temps trouver les défauts, là, puis celle-là, j'avoue que je suis comme... C'était la deuxième fois que je le voyais. C'était... Non, j'ai vraiment aimé.
C'est vrai que dans les trois premiers, il y avait quelques défauts. J'avais noté les défauts, là, je sais plus trop, là, j'aurais pu te dire. Mais là, j'avoue que pour dire ce qui allait pas. En plus, il y a des décors magnifiques, là. Je sais pas où est-ce qu'ils ont allé filmer.
Peut-être que ça soit en Écosse. Il me semble qu'il y avait des tournages en Écosse. Ça ressemble beaucoup, là.
Ah, c'est super. C'est aussi montagneux que ça, l'Écosse, justement. Je me demandais, parce que ça ressemblait un petit peu au Canada. Le Canada, mais de ce côté-là, du côté plus ouest, tu vois, forêt, lac, montagne, en gros.
Ouais.
Et je trouve ça magnifique, quoi. C'est vraiment, là, tu sens que c'est du vrai décor, que c'est pas du volume, qu'ils sont allés sur place et tout. Et c'était très dépaysant. Ouais. C'était super.
Ouais. Très bon épisode. J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est comme je disais, ça donne l'intrigue pour la suite. Il y a plein de petites histoires là, qu'on va suivre. Et le fait que c'est sur 12 épisodes, ça va donner le temps à ces histoires-là de respirer et de vraiment prendre leur temps à se dérouler.
Je sais que l'équipe FR en avait déjà parlé aussi, mais c'est donc Gilroy là c'est showrunner de la série, quoi, Tony Gilroy. Et justement, lui, il est sans Filoni, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Du coup, t'as pas Filoni qui vient mettre son nez dedans. Et du coup, il fait son truc à lui. Et lui, là, pareil, si tu regardes sa filmo, en tant que writer, que scénariste, il a un curriculum de fou, quoi. C'est vraiment un scénariste de malade, quoi. Il a été une fois réal, je crois, sur un film avec George Clooney, là, qui était pareil, excellent. C'est quelqu'un de très. C'est serious business, souvent, ses films. C'est pas du blockbuster, c'est pas du rigolol. C'est assez sérieux. Pareil pour les réals, j'ai regardé les noms, j'en connais aucun. C'est souvent des réalisateurs de séries. Ils n'ont pas pris un gars grandiloquent. J'adore Robert Rodriguez, mais j'avoue que le gars, il a une personnalité.
Il a un style particulier.
Ouais, il a un style vraiment. C'est quelqu'un de trop particulier pour Star Wars, je crois. Peut-être. Là, ils ont pris des gens peut-être un peu plus qui rentrent un peu plus dans le moule, mais qui ont fait que des réalisations de séries sérieuses, entre guillemets, réalistes. Voilà, plus réalistes. Mais comme la série se veut être réaliste. Donc, je trouve que ça colle parfaitement, quoi. Donc, big up aux scénaristes.
Ouais, j'allais dire, tu sais, c'est tellement réaliste que tu oublies que là-dedans, il y a du monde qui se promène avec des épées laser puis qu'ils sont capables de lever des choses avec leur pensée puis tout. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est qu'on voit vraiment le côté guerre de la guerre des étoiles. Hein.
Exact.
Une chose que j'avais mentionné quand on avait parlé des quatre premiers épisodes, vite, là, sans spoilers. La cinématographie, je sais que tu en as glissé un mot, Juliane, mais ça paraît que c'est pas filmé dans le volume. Oui, ça paraît que c'est vraiment filmé sur place ou dans les studios de Pinewood. La cinématographie est totalement différente. Et je sais pas si la série a eu plus de budget, mais les effets visuels, j'y trouve plus beaux que ce qu'on a vu dans comme genre Boba Fett. Mandalorian, les effets étaient quand même bien.
Je trouve que c'était pas trop mal. Ça c'est discutable. Mais moi, je dirais que pour tout ce qui est effets spéciaux, d'ailleurs, Boba Fett a quand même eu la récompense, le Emmy pour ça. Je trouve que ça reste top pour les quatre séries. On a beau dire ce qu'on veut sur Boba. Je trouve que les effets visuels, sale et quand même, je trouve.
Ben, tu voyais, tu sais, il y en a quelques-uns, tu voyais que les effets visuels, c'était comme, oh non, on n'a plus le temps, puis c'est, ouais. La finition n'était pas tout à fait là, celui-là. Mm-hmm. Peut-être aussi le fait que ça a été repoussé un peu, ça donnait le temps vraiment de compléter la série, comme, tu sais, les effets comme ils devaient être faits. Mais ça a vraiment une qualité de film, je trouve, ouais. Comparativement aux autres séries.
Mais à coup de pas, là, vu que tu parlais de la photo, donc en français, c'est la photo du truc, du film. Dans l'épisode précédent ou dans un WhatsApp précédent, j'avais parlé du fait que c'était peut-être le même directeur photo que Rogue One, mais en fait, non.
C'est lui.
C'est pas le même. J'ai vérifié, non. Ils ont pris deux autres directeurs photo qui ont travaillé sur des séries super, super populaires de Game of Thrones, par exemple, ou l'autre, comment il s'appelle. Ah, j'ai plus dans Succession, je crois. Donc ouais, et c'était pas celui de la série, évidemment. Alors, par contre, Tony Gilroy a été co-scénariste de Rogue One, par contre. Donc voilà. Donc il y a des liens avec Rogue One, mais pas au niveau de la photo, bizarrement, parce que ça se ressemble quand même beaucoup. Mais on double-checkera pour être sûr quand même, mais je crois avoir lu ça, quoi.
OK.
Moi, j'aime les costumes aussi. Ouais. Oh, wow! Tu sais, de Mon Mothma, son mari,
Son mari,
Et aussi, quand même très, très chic, bien habillé, les décors aussi, que c'est... Ouais. Un peu oriental, un peu plus japonais, aussi comme les petits arbres, les petits bonsaïs, tu sais, tout est zen, mais dans l'opulence encore, même Luton, ses costumes, waouh, tu sais, c'est très chic, ça n'a rien à redire non plus, là, très beau.
Tu sais, quoi, quand on arrive chez Mon Mothma, c'est assez flashy, c'est tout blanc, tout c'est magnifique. Et ouais, tu parles de côté japonais, c'est vrai que son mari, mais c'était direct ça, quoi. C'est les différentes couches, là, tu vois son kimono, il a différentes couches, c'est vraiment un kimono japonais, il a son hairstyle.
Ouais,
avec,
exact.
Pareil, une coupe très, très japonaise, un peu. Il faisait très Liam Neeson, presque, avec ça.
Et ça faisait du bien de revoir Coruscant.
Oui,
ça aussi.
On l'avait pas vu depuis la prélogie, donc ça fait du bien de revoir.
Ouais.
Tant dans le chic que dans le moins chic.
Ouais, c'est ça. OK, si je vous demanderais s'il y a des petites choses que vous avez remarquées, soit des Easter eggs ou des petits clins d'œil, je ne sais pas si vous en avez noté. Moi, j'en ai quelques-uns, mais je voulais voir avec vous.
Ah, OK. Moi, c'était plus la similitude de voix avec les droïdes. Moi, j'aime, mon Dieu, il me semble, j'entends qu'il y a tout SO partout, là. Mais en tout cas, moi, je trouvais que la voix ressemblait. Mais sinon, peut-être que je suis moins férue que toi, Jean-François. Je suis sûr que tu en as trouvé plein.
Oui, je suis sûr aussi. Ouais. À part des mentions, tu disais de Slymour. L'autre, je ne le connaissais pas, donc je ne peux pas dire. Donc, Slymour, qui est dans les comics aussi récemment, dans le comics Dark Vador, il y a beaucoup eu Slymour récemment. Et la mention aussi, pareil, bon, là, c'était obvious, celle de Saw Gerrera. Mais à part ça, non, j'ai pas plus de clin d'œil que ça. Donc, vas-y, éclaire-nous, JF.
Alors, j'en ai deux gros qu'on voit dans la boutique
de
Luton. Alors, le premier qui est ceci. Ah oui, il faudrait que je partage mon écran, ça va aller mieux.
C'est vrai que dans son musée d'art, là, à mon avis, le clin d'œil, ça devait aller.
Alors, voilà. Est-ce que vous reconnaissez ces pierres?
Ouais.
C'est des pierres qu'on voit dans la série Clone Wars. Dans l'épisode avec je sais pas s'il s'appelle le père, je pense, avec le père qui représente la force, sa fille qui représente le côté...
Ah, oui!
Le light, puis là, son fils qui représente le côté obscur. Donc, ça, on voit... Je vais vous le montrer. Ici, donnez-moi alors. Ça, c'est ce que nous voyons dans Clone Wars. Dans l'épisode de Clone Wars. Alors, voilà.
Ah, ben.
Alors, petit clin d'œil à Clone Wars. Alors, je sais qu'on disait, c'est une série que Dave Filoni n'a pas touché, mais malheureusement. C'est Dave Filoni dedans, pareil. Et je sais que Sébastien va être très content. C'est Dave Filoni, là. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, deuxième clin d'œil. Jean, tu vas être content de celle-là. Clin d'œil au jeu vidéo The Force Unleashed. Alors, toujours dans la boutique. Toujours dans la boutique. On voit l'armure de Starkiller en arrière. Si vous avez choisi la fin où il tombe du côté obscur de la force et se joint à Palpatine. Alors, son armure, c'est celle-là ici en arrière.
D'accord, ben, tu vois, j'avais complètement zappé. Ah ben oui, effectivement. De Starkiller, ouais. Ah, excellent, excellent. Ah, oui, trop bien.
même si je trouve, ta minute, l'image juste pour vous montrer. Juste pour
c'est pour ça qu'on écoute Star Wars en direct. C'est pour découvrir des petits agitateurs.
Exact.
C'est cool. excellent. Enfin, je vais juste montrer l'image. J'aurais dû la préparer, hein. Je ne l'ai pas préparée. OK. On la voit peut-être pas aussi bien, celle-là, parce que je sais qu'il me semble qu'il avait sorti une couverture du jeu avec...
Ah, peut-être le deuxième épisode, non, peut-être?
La couverture genre du Complete Edition ou je sais pas trop quoi.
Ouais,
là.
Je crois.
Mais, je suis pas capable de la trouver. Mais bon, je vais juste trouver l'image. OK, bon, ben, attendez, je vais partager. Et voilà. Et voilà. Mm-hmm. Alors, c'est l'armure que nous voyons à l'arrière. Ah, attends, celle-là, je pense qu'on va le voir mieux. Et voilà.
Mm-hmm.
Alors, ça, c'est l'armure qu'on voit à l'arrière que j'ai montré un peu plus tôt.
Excellent. Bien vu, bien vu. Bien joué.
ensuite, autre. Il y en a d'autres. Attendez, je recherche ma feuille que j'aurais pas dû fermer. OK. Je me souviens plus de son nom, là, mais l'officier impérial qui se fait renvoyer chez sa mère. Je sais pas si vous avez remarqué quand il sort d'une navette, je sais pas trop quoi, là,
ouais.
Il marche, on entend au haut-parleur, il parle de je sais pas trop quoi, mais il mentionne la planète Osnia Prime, qui est la planète
qu'on c'est vrai.
Ben, on la voit même pas, c'est la planète qui se fait détruire dans la technologie.
Ça a un plan où tu vois sur le balcon, justement,
Cassian mentionne, quand il parle à Luthen dans le vaisseau, qu'il a déjà combattu l'Empire sur la planète Mimba.
Je voulais te demander.
On voit dans le film Solo. On s'imagine d'accord. que Cassian était là. Quoi qu'il ne s'est pas vraiment battu, c'était plus un chef de cuisine qui s'est poussé. Puis qui était.
Mais comment qu'il a su ça, Luthen? Comment qu'il a su ça? Moi, voilà, c'est
exactement.
C'est...
Ah! Exactement. T'as l'impression qu'il
c'est
connaît
qui, ces informateurs?
Il connaît, non seulement il connaît son passé, et non seulement il t'as l'impression qu'il connaît psychologiquement.
Il doit avoir une taupe dans l'Empire, là. Mais on sait qu'il y en a une sur la planète, mais d'après moi, son réseau, il est plus élaboré que ça, là.
Oui. Donc, on ne sait pas. On sait pas, peut-être que Cassian a rencontré Solo, Han Solo, à quelque part, à un moment donné, dans le passé. Luthen, il donne à Cassian un Kyber Crystal, un cristal kyber qu'on a vu aussi dans Rogue One avec Jin. Le cristal, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est aussi le cristal, lorsqu'il en parle, il parle du cristal, il dit que c'est pour célébrer la rébellion contre les envahisseurs Rakata. Et je sais pas. C'est quoi les envahisseurs Rakata, mais c'est une espèce qu'on voit dans le jeu Knights of the Old Republic.
Ah, mais j'y suis pas encore.
N'est-ce pas, genre, là, ça fait deux références de jeux vidéo que je fais, le petit.
Celui-là, c'est un, mais, tu vois. Non, il faut que je le fasse. Je suis en train, mais j'y suis pas encore au Rakata, du coup. Intéressant.
Ouais, pendant le meeting avec le ISB, la Sécurité impériale, il mentionne Ryloth, qu'on a vu dans Clone Wars. On apprend aussi que l'Empire sont en train de... Ils ont des opérations minières sur une planète qui s'appelle Arvala 6.
Mm-hmm.
Et dans la série Mandalorian, il y a Arvala 7, et c'est là que Mando trouve Grogu. Dans le premier épisode, sur la planète Arvala 7.
D'accord.
Donc, on s'imagine que c'est dans le même secteur. Quoi d'autre? Osnian Prime, je l'ai dit.
Il y en avait une.
Je ne sais pas si tu l'as. Là, dans les commentaires, il y a Elster qui parle du Calicori Twi'lek. Est-ce que tu as vu un Calicori Twi'lek? Oui.
Oui, c'est vrai. À la boutique, dans c'est vrai.
Oui, d'accord.
Oui. Okay. Il me semble que j'en ai vu un.
Écoutez, c'est pas mal tout. Le reste, on l'a mentionné.
Il y a mention de Scarif aussi. Vite. Oui.
Comme quoi, qu'ils sont en train d'augmenter les vaisseaux de construction en direction de Scarif.
Oui, mini.
Et du coup, est-ce que tu connais, si alors, pareil, Elser dans les commentaires parle du masque de Keldor. Est-ce que ça dit quelque chose? Ça me dit rien du tout. Le masque de Keldor. K-E-L-D-O-R. Je ne sais pas. Ah, c'est très pointu comme référence, là. Esther, tu nous as eu, là. Voilà, voilà.
Non. Donc, c'est ça.
OK.
C'est pas mal ce que j'avais remarqué de mon côté. Puis c'est ce qui fait que même si c'est le côté un peu plus sérieux, le peu plus groundé, si on peut dire, de Star Wars, il y a quand même les Easter eggs qui sont placés un peu partout.
C'est du pointu, un Easter egg. Hein. C'est pas juste te mettre Ahsoka ou Cad Bane, tu vois, c'est des trucs vraiment. Faut y aller.
On a le détail des masques de Kandor.
Ouais. Ben, nous autres, moi, j'assumais que c'était le masque de Plo Koon. Mais ouais.
Ouais. Ouais, ouais.
C'est vrai.
Ah, bien vu. Bah, écoute. Par contre, ouais, au niveau des uniformes, je sais que Loïc en a beaucoup parlé sur le Discord, les uniformes impériaux, enfin de l'ISB. Du coup, moi, j'ai trouvé ça rigolo qu'ils aient. Est-ce que dans les films c'était comme ça? Je sais plus. Ils ont une espèce de deux petites poches là, où tu mets des espèces de stylos. Et imagine qu'ils mettent leur stylo.
Est-ce qu'ils cylindres?
Voilà. Et j'aurais voulu savoir si Loïc était là, peut-être il pourrait répondre. Mais alors, c'est tous les uniformes, enfin, qu'ils soient plus ou moins gradés, ils ont tous 4 carrés bleus. Sur le côté, là, sur l'uniforme blanc. Et je me suis toujours demandé si c'était vraiment un grade particulier. Je sais que Throne, il a 36 avec bleu et rouge. Là, il n'y a que des bleus, il n'y en a que 4. Est-ce que c'est quoi? C'est une hiérarchie en fonction des nombres de carrés bleus et rouges?
C'est ça, exactement. Je pense que c'est comme ton grade. C'est comme les uniformes armés que tu vois. Tu le sais que c'est un lieutenant ou un sergent ou quoi que ce soit. C'est un peu le même type de choses.
Mais c'était très très cool d'avoir des plans, genre ben, quand tu arrives à l'ISB, tu as le plan du bâtiment de l'ISB sur Coruscant. On passe énormément de temps sur Coruscant, voilà, j'aimerais bien revenir là-dessus deux secondes. Mm-hmm. Les plans, tu as beaucoup de films qui font ça. Moi je pense directement à. Comment ça s'appelle c'est toujours quand je suis en direct que j'ai trop de mémoire là. Comment il s'appelle le film d'horreur Candyman, voilà, Candyman, où tu as accès à ces plans de ville vu du dessus. Mais là pareil, tu as le plan de Coruscant vu de dessus. J'adore à chaque fois quand les réalisateurs font ça. Ça te présente la ville d'une manière un peu particulière, quoi. C'est pas juste le plan de la ville de loin, non, c'est vu du dessus, donc tu vois les allées et tout ça. J'ai beaucoup aimé, tu parlais de. Alors, moi, c'est. Alors, on en parlait dans les commentaires, c'est un mix entre Kyle MacLachlan, l'acteur, et Zac Efron.
Ouais.
franchement, il y a une tête, j'adore, hein. Et il joue super bien, justement, parce qu'il y a, dans l'épisode 3, 2 ou 3, et dans celui-là aussi, il y avait des plans où la caméra s'arrête sur son visage quand il est en mode. Tout va mal pour lui, quoi. Donc, la caméra s'arrête sur lui et il se passe rien. Et c'est juste lui qui réfléchit, tu vois, à ce qu'il vient de faire et tout. Et tu sens qu'il va se passer quelque chose avec ce personnage-là. Je sens qu'il y a quelque chose qui va. Et là, quand il arrive dans ces espèces de bâtiments tout blancs, c'est superbe. Là aussi, je sais pas si c'est des décors en studio. Enfin, c'est superbe qu'ils aient bâti les trucs. Ça fait très, très froid, très Coruscant. C'est pas les bas-fonds, mais c'est tous les travailleurs de Coruscant qui vont habiter dans ces bâtiments là, donc c'est je sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant, très SF, tu sais, un petit peu SF 84 qui vivent dans des box et tout, enfin je sais pas, ça m'a beaucoup plu ce design là, en tout cas que j'avais jamais vu dans Star Wars.
Ben, comme quand on voit le monsieur petit surnom là, sa mère, tu sais, les couloirs, ça me fait penser à, c'est quoi, dans Knights of the Old Republic, la planète Tanis. C'est ça, Tanis, qui ressemble un peu à Coruscant, là, que. Il me semble que c'est Tanis. En tout cas, je suis sûr que quelqu'un va me corriger si j'ai pas la bonne planète. Non, il me semble que c'est Tanis. Mais en tout cas, je trouvais que c'était pareil parce qu'il me semble qu'il y a une séquence où on se promène dans les. Où ce que les appartements. Taris.
Mm-hmm. Taris, oui. Ouais.
Yes. Donc c'est ça, les appartements, il y a les couloirs, parce que les appartements, je trouvais que c'était vraiment. Ça ressemblait beaucoup. Donc, je trouve ça cool que le design est très similaire.
Ah, oui. Très très cool. Et vous voulez pas parler un petit peu de la rébellion, donc l'espèce de groupuscule de rébellion là, qui se monte là. J'ai beaucoup aimé aussi là, tous ces personnages là. T'as la leader un petit peu, hein, qui m'a fait penser à l'actrice. Ça y est, j'ai trop. Ça y est, bon, Jérôme. Ferguson, voilà. Au début, je pensais que c'était elle. Elle ressemblait un petit peu à Ferguson. Et c'est une actrice que je connais pas. Du coup, pareil, tout ce petit groupe, c'est que des nouveaux acteurs que j'ai jamais vus. J'aime beaucoup le jeune aussi qui. T'as un moment, il dit qu'il sent. Que Endor, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui peut aider. Ouais. Et quand il parle de ça, je me dis, est-ce qu'il n'est pas sensible à la force, et qu'il ne ressent pas quelque chose vis-à-vis d'Endor?
Excuse-le, mais c'est clair que ce gars-là va se faire tuer. C'est clair.
Il est trop
innocent, il est trop fin,
trop innocent.
Il va mourir, c'est sûr. C'est le petit personnage typique qui se fait tuer dans un...
C'est vrai.
Puis moi, une chose qui m'a... On a vu aussi que ce groupe de rebelles ont des AK-47 comme arme. c'est un peu modifié, mais bon, ça c'est un peu loin de ce qu'on a vu, tu sais, des styles d'armes habituellement qu'on voit dans Star Wars. Là, ils ont vraiment pris... ils ont pas fait d'effort. Ils ont juste comme coupé le manche, puis tain, c'est... AK-47, et voilà. C'est carrément ça. Mais bon.
Oui, ça colle dans... Ça fait très guérilla, justement. C'est plus qu'une rébellion, c'est plus un petit groupe de guerrieros. Donc oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts, effectivement.
Donc, c'est ça. Comme je disais, ça donne envie pour le prochain.
C'est de voir aussi que l'officier qui s'est fait renvoyer, ben avant la planète Férix n'était pas contrôlée par l'Empire, était là un petit peu, puis là, ils se font dire, ben là, t'as foutu le trouble, là. Ben l'Empire, ben, tiens, on s'en occupe, la planète, il n'y en a plus de sécurité, fait que peut-être qu'on va retourner sur Férix justement, voir, ben, OK, là, l'Empire débarque, qu'est-ce qui se passe, tu sais, vont-tu embarquer dans la rébellion encore plus avec ça? Ça aussi, ça peut être intéressant. Ouais.
Oui, parce que je sais que l'actrice qui joue Bix, elle a confirmé que c'était pas la dernière fois qu'on l'a
vu. Ah, c'est ça.
C'est peut-être le seul point noir de cet épisode, c'est qu'il n'y a pas Bix, du coup. Parce qu'elle est très, très bien, cette actrice, vraiment super. Non, dans les trois premiers, elle était super. Vraiment excellente, quoi. Et au niveau musique, je ne sais pas si vous avez remarqué.
J'adorais.
Elle est excellente. Ouais, t'as vu?
La musique électro.
Ah, mais alors la musique électro du club. Hey. Alors oui, excellent. D'ailleurs,
ça le bout avec Mon là, dans son auto, là, c'est comme, oh boy, c'est très électrique, là, c'est électronique.
Ah oui, dans la voiture, d'accord.
Ouais.
Ah, je n'ai pas remarqué dans la voiture.
Oui, le petit bout de musique, là, c'est OK. Là, c'est un peu futuriste. Là, ouais.
Je parlais plus de... Alors, tu parles de la musique intradiégétique, c'est ça comme ça qu'on dit? Intradiégétique.
Ouais.
Là, je parlais plus de l'ambiance, en fait, la musique d'ambiance qu'il y a dans tout l'épisode. Ça vous avait pas fait penser à des... Bah, moi, ça m'a fait de suite penser à du Villeneuve, en fait, à du Denis Villeneuve, avec des plages très, très... je suis pas un mélomane tant que ça, mais c'est avec... tu sais, t'as une vibe très...
c'est planant.
Planante. Avec une espèce de tension dans l'air, tu sais. J'ai regardé, c'était quoi, Ennemi et Prisoner, là, qui sont deux des premiers films de Denis Villeneuve, qu'il avait fait avant ces blockbusters, là. Et c'est ça, c'est tout le temps, c'est très réel, c'est lancinant, ça te met un petit peu mal à l'aise, t'as des plages de violon qui traînent, qui restent en longueur, et puis qui traînent comme ça, et puis ça te met dans l'ambiance, c'est vraiment excellent, quoi. La musique, c'est un gros point fort de la série, pour l'instant, je trouve.
Ah, écoute, comme je disais, côté production, côté tout, écoute, tout s'assemble parfaitement, je pense, pour la série, c'est du bonbon. J'ai hâte de voir la suite. Mais pour le moment, je pense que c'est vraiment une de mes séries préférées, si c'est pas la série préférée de Star Wars. Pour moi, là, j'adore. Et il y a beaucoup de monde qui considère Rogue One comme étant le meilleur film sous l'ère Disney. Je pense que les fans sont ravis de voir que il y a une série qui est vraiment qui suit le même ton que Rogue One.
C'est bien qu'ils piquent un petit peu, tu vois, Obi-Wan c'était plus prélogique, là ils prennent plus Rogue One, on laisse une série un peu plus peut-être post-logique, ce serait pas mal. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde, c'est cool, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement.
Mais c'est marrant parce que Andor, c'était un perso dans Rogue One. Ah, excuse-moi, je vais te couper.
Rogue
One, il était très bien, mais c'est pas un personnage qui m'intéressait plus que ça, quoi. Rogue One est excellent, j'adore tout ça, tout ce que tu veux. Mais il y avait Jyn Erso, vraiment, je m'attachais beaucoup plus à elle qu'à Andor qui était juste là. Et là, tu vois, de le revoir, la toute première scène de la série d'épisode 1, là, où tu le vois buter un gars de sang-froid, je fais oui, d'accord, donc c'est rebelote, ils nous refont la scène de Rogue One, en fait, où il bute de sang-froid quelqu'un, pour montrer que voilà, c'est un gentil, il fait partie de la rébellion, mais il est quand même méchant, là. Donc j'ai trouvé ça un peu trop facile, là. C'est pour ça que je suis content qu'ils s'éloignent un peu de ça. Ok, ils nous ont montré, ils nous ont replacé le personnage de comment il était dans Rogue One, et qu'ils sont partis sur autre chose, là. Donc, ils me font attacher au personnage, un personnage que, un peu comme Boba pour sa série, dont je me foutais un petit peu avant, et puis en fait, ils arrivent bien à t'attacher au personnage principal.
Je crois qu'on a fait le tour de l'épisode. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qu'il faut lui rajouter, mais je pense qu'on a vraiment discuté de tout l'aspect de l'épisode. Écoutez, pour ceux qui nous écoutent, dites-nous vos commentaires. Hein, vous allez, si vous regardez l'épisode sur YouTube, écrivez vos commentaires lorsque vous allez l'écouter. Si vous l'écoutez en version podcast, vous pouvez laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout. Ça va nous faire plaisir de vous lire. C'est là-dessus que nous allons conclure cet épisode de Star Wars en direct. Alors, je vous rappelle que pour les prochaines semaines, tous les mercredis, il va y avoir les épisodes séries qui sont consacrés à Andor. Il y a aussi, entre-temps, des épisodes qui vont paraître. Je sais qu'il y a quelques épisodes littérature qui ont été enregistrés. On prépare un gros épisode pour le 10e anniversaire du rachat, pas du rachat, mais de l'achat de Lucasfilm par Disney. Jusqu'ici, je pense qu'on n'est pas loin d'un épisode de 3 heures. Donc, c'est un gros épisode qui va sortir pour les 10 ans. Surveillez ceci. On touche vraiment à tout. Films, séries, livres, jeux et tout.
Événements.
Événements, oui. Ça va être vraiment super intéressant comme épisode. Je vous rappelle que vous pouvez montrer vos couleurs de Star Wars en direct. Vous pouvez nous encourager avec les chandails et autres produits dérivés si vous allez sur notre boutique. Boutique Star Wars en direct, Star Wars.direct, section boutique. YouTube, si vous nous regardez sur YouTube, s'il vous plaît, vous abonnez, cliquez sur la cloche, le pouce, partagez les épisodes. Ça va nous aider, ça va aider à faire croître les épisodes. Ça va aider nous, de notre côté, à se faire connaître plus. Juste aussi rappeler que vous pouvez faire des dons si vous voulez sur YouTube. Vous avez le signe de dollar ou les super stickers. C'est pas obligé d'être live. Vous pouvez le faire même si vous regardez par après. Tout l'argent qu'on reçoit sert à payer les serveurs de Star Wars Inc. C'est tout. De la part de Juliane, Jean et moi-même, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.
Bye bye.
Bonne soirée tout le monde.
Toujours.